Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h41, merci d'être avec nous dans un instant. Comme d'habitude, le petit déjeuner de l'actu. Ce matin, Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, Éric Revel, bien entendu, vos appels 0826-300-300. Mais avant cela, on fait une petite revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, et puis on va être avec Le Point et Étienne Jernel dans un instant. Déjà, quand on regarde la presse ce matin, Benjamin Glaise, il y a par exemple ce titre autour des plus de 75 ans qui peuvent s'inscrire pour se faire vacciner.
Ben oui, ça y est, c'est fait. En tout cas, c'est désormais possible à partir d'aujourd'hui. Ça fait la une notamment de l'éclair des Pyrénées qui indique que la liste des centres est à retrouver sur santé.fr pour ce qui est des premières injections. Ce sera un peu plus tard, à partir de lundi prochain. Où se faire vacciner, titre également Midi Libre avec une carte des 24 centres présents dans le département de l'Hérault. En tout cas, dans ce contexte, eh bien, les Français se laissent convaincre par la vaccination. C'est ce que croit savoir, en tout cas, le Parisien aujourd'hui en France. La peur du variant d'un côté, des restrictions aussi font tomber les réticences. Parisien qui ajoute que 98,7% des députés se déclarent pro-vax, donc pro-vaccin. Pendant ce temps, la Commission européenne, elle, est sous pression. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, se plaignent de la lenteur des premières livraisons des vaccins commandés par Bruxelles. Des vaccins commandés, on le rappelle, pour le compte des 27 membres de l'Union européenne.
Oui, et puis il y a toujours aussi des témoignages pour les gens qui ont été atteints du Covid. C'est par exemple le cas dans l'Indépendant catalan d'un maire qui dit avoir vécu un calvaire.
Et il s'agit du maire de Pollestre, dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Charles Moriconi raconte ses 2 mois passés à l'hôpital, 18 jours de coma, mais aussi cette trachéotomie. Un élu qui raconte cette expérience dont il est sorti vivant, mais pas indemne psychologiquement. Il le dit, il faut se reconstruire. Témoignage donc très fort à retrouver ce matin dans les colonnes de l'Indépendant catalan. Un témoignage bien loin de ce fait divers qui fait la une cette fois-ci de la République des Pyrénées. Un fait divers malheureusement assez révélateur de l'ambiance du moment. En l'occurrence, il s'agit d'une violente agression qui a eu lieu à Pau au sujet du port du masque. Bah oui, un individu qui refusait d'en porter un pour entrer dans un bureau de tabac finalement agressé et blessé gravement un autre client qui tentait de s'interposer.
Oui, et puis on va terminer avec vous avec cette étrange valse qui est à la une de la Dépêche du Midi.
Oui, la valse des panneaux en l'occurrence, et plus précisément la valse des panneaux, vous l'imaginez, des 90 et 80 km/h. Bah oui, avec la photo d'hommes en jaune qui sont en train d'opérer le changement au bord d'une route, comme l'indique la Dépêche. Depuis fin 2019, plus d'un tiers des départements ont renoué avec les 90 km/h. Et puis pendant qu'on est sur la route, tenez,
oui.
Elle fait son
retour. Mais on ne résiste pas à ça.
Oui, c'est la Renault 4L qui est à la une de Libération. Jamais démodée, elle sera dorénavant électrique. Bah oui, la marque aux losanges doit la dévoiler aujourd'hui, cette nouvelle version de son modèle historique. Et c'est l'occasion pour Libé de rappeler la consigne que le PDG de Renault avait donnée à l'époque, en 1961, à ses ingénieurs. Vous faites une deux chevaux en plus confortable, plus rapide et surtout moins laide. Voilà comment est née finalement la Renault 4L.
Bon, la 4L qui revient, elle sera un petit peu relookée, j'imagine.
Ouais, elle change un petit peu, mais on retrouve les formes, on va dire, historiques.
Oui, c'est ça. On poursuit notre Tour de France, alors à la fois de la PQR et des journaux et des magazines, puisque nous sommes jeudi. Nous sommes avec Étienne Jernel, directeur du Point. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, bonne année au passage. Avec une, alors qui décoiffe, j'allais dire, parce que c'est les nouveaux fanatiques que vous décrivez, déboulonneurs, gauche racialiste, écriture inclusive, etc.
Oui, mais ce sont les nouveaux entrepreneurs identitaires, ceux qui, vous savez, tous les indigènes le Parti des indigènes de la République, tous les mouvements décoloniaux, qui sont très curieux d'ailleurs, plusieurs décennies après la fin de la colonisation, et qui veulent tout décoloniser, qui se mêlent à certains mouvements LGBT parfois, un peu bizarres, et qui voudraient assigner finalement tout le monde à son identité, qu'elle soit raciale ou de genre, et qui ont des conséquences parce que dans l'université ils progressent. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des profs qui sont intimidés, il y a des conférences qui sont annulées. On se souvient de l'histoire de Sylviane Agacinski par exemple, ou de la reproduction des la production des suppliantes d'Eschyle qui avait été empêchée à la Sorbonne. Et puis on voit bien que dans le monde universitaire, ça commence à prendre de manière sérieuse, qu'il y a des profs qui sont intimidés, qui n'osent pas aller contre cette doxa. C'est doxa qui se mélange, l'écriture inclusive en fait partie évidemment, et puis il y a des universitaires qui se rebellent, qui disent non, le savoir ne doit pas être subordonné à ces idéologies qui sont souvent proches de l'extrême gauche, mais pas toujours, et dire bah non, ça suffit. Il faut lire quand même les thèses universitaires qui sortent en flamand. Hein. Il y en a une qui est sortie là, l'université Charles de Gaulle de Lille 3. Je vous cite, la libération du désir ne pourra advenir que lorsque se sera écroulée votre identité hétéro. Des thèses universitaires qui disent des choses comme ça. C'est l'écologie des savoirs. Celle-ci consiste en un dépassement de la monoculture du savoir scientifique, en concevant des savoirs non scientifiques comme des alternatives au savoir scientifique. Non, mais ça, c'est fabuleux, un extrait de quelque chose qui a été publié aux presses universitaires de Strasbourg. Ouais. Voilà, donc c'est ça qui arrive en ce moment, qui a une influence après sur l'école, parce qu'évidemment, c'est à l'université conforme aussi des enseignants, et puis sur les médias derrière. Donc c'est un combat culturel qui est politique et qui est absolument majeur aujourd'hui.
Oui, oui, c'est ça. Et donc, il y a un appel, justement, de certains universitaires contre ça, hein.
1076 universitaires qui créent l'Observatoire du décolonialisme. Et en gros, il s'agit de lutter contre ces idéologies identitaristes qui sont d'abord ravageuses pour la liberté de l'enseignement, pour les libertés tout court, puisque ça consiste quand même essentiellement en intimidation. Ils sont assez courageux parce que, comment dire, ils sont sûrs de subir des conséquences de ça. On voit bien, il y en a certains qui témoignent et qui racontent que dans l'université, bah, c'est pas évident d'avoir un poste, de garder son poste parfois, si on n'est pas dans la ligne de ce parti-là, de cette nébuleuse-là. Il faut beaucoup de courage et ils sonnent la révolte. Ils sont courageux, c'est assez admirable.
Oui. Merci pour cet éclairage et ce dossier. Donc, les nouveaux fanatiques, c'est à la une du Point. Merci, Étienne Jernel, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Il est 8h48. Restez avec nous. Dans un instant, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu.
Absolument.
On reviendra sur ce qu'on attend ce soir, 18h, les membres du gouvernement. On en parlera avec nos éditorialistes du jour. 8h48. Et c'est Françoise de Gouin qui est avec nous, Éric Revel, Elisabeth Lévy.
Oui, je vous propose de commencer par Éric Revel, peut-être sur ce dossier Carrefour.
Ah oui.
Parce que c'est arrivé en fait hier et c'est peut-être plus grave et plus important qu'on ne pense. Oui. C'est vrai qu'il y a bien sûr la crise en fait du Covid qui éclipse beaucoup de choses. Donc Carrefour, qui fait partie des grosses entreprises qui marchent bien et puis... Pendant le confinement, s'il y avait encore des secteurs qui pouvaient fonctionner et travailler, c'était la grande distribution. Et on a été un peu surpris, peut-être pas le monde économique, de cette possible OPA sur Carrefour par un Canadien, Éric Revel.
Bah aussi, quand même, tout le monde, je pense, a été surpris. Vous avez raison, le timing est un peu curieux, c'est-à-dire qu'au moment où on voit que la grande distribution a quand même engrangé pas mal de profits, a fait de belles affaires pendant ce confinement. C'est le moment où un groupe totalement inconnu en France et même en Europe, mais qui est très puissant aux États-Unis, au Canada, en Asie aussi, ce fameux groupe Couche-Tard, bon, voilà, son licenciement 24 sur 24, comme il y en a plein aux États-Unis, veut racheter pour 16 milliards le groupe Carrefour. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, avait restructuré l'entreprise, y compris en compressant l'emploi d'ailleurs. Et ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi Carrefour serait racheté. Alors, amicalement, on n'en est qu'aux prémices, c'est pas fait. Et puis surtout, il y a une montée en puissance de Bruno Le Maire, vous l'avez noté, qui s'abrite derrière la loi Pacte, qui est une loi économique forte, qui inclut la distribution alimentaire, pour dire, le ministre des Finances, pas touche à Carrefour. Il s'agit de sécurité et de souveraineté alimentaire. Alors moi, j'adore, je vais vous dire ces mots-là, parce que je le disais tout à l'heure, regardez le nombre de marques qui ont disparu parmi les plus importantes, les plus stratégiques dans la panoplie industrielle française, Alcatel, Lafarge, Péchinet, racheté par un Canadien Alcan en son temps, Alstom, racheté par GE. Enfin, il y a vraiment beaucoup de marques qui ont été rachetées. Et moi, je dis que, attention, on découvre qu'avec ces crises sanitaires, on a besoin d'indépendance, notamment dans les produits sanitaires, de souveraineté industrielle. Eh ben, ne perdons pas celle qui consisterait à dire on vend Carrefour et on regardera après si ça a un impact sur les souverainetés alimentaires.
J'ai une question. Moi, j'ai une question.
Alors, vous avez des questions. D'abord, Elisabeth et ensuite Françoise.
Bonjour Éric, merci pour votre... C'était très intéressant, y compris votre chronique. Mais alors moi, je me demande, si vous voulez, autant je comprends quand c'est les bijoux de famille, Alstom, c'est-à-dire l'industrie qui peut être délocalisée, que ça nous pose un problème. Mais dans le fond, si quelqu'un achète Carrefour, il faut être honnête. Il va pas délocaliser nos supermarchés, puisque ce qu'on achète avec Carrefour, c'est un réseau de supermarchés.
Non, c'est ce qu'il va mettre dans les rayons qui pose problème, en fait. Hein.
Peut-être. Alors, la question d'Elisabeth, oui.
Oui et non, Elisabeth. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez raison. Sauf à imaginer que la marque Carrefour disparaisse, etc. Mais regardez, par exemple, les liens qu'entretiennent la grande distribution française avec les producteurs locaux.
Oui, vous avez raison.
Avec les producteurs locaux. Bon,
c'est vrai ça ou c'est de la pub?
C'est vrai, c'est de plus en plus vrai.
Plein de marques, pas que chez Carrefour, chez Leclerc ou ailleurs, qui sont des marques de distribution locale et de Carrefour et de produits de proximité. Donc ça pose déjà un vrai sujet. Et puis je vais vous dire, Bruno Le Maire, qui parle de sécurité alimentaire. Moi, je pense que tous les politiques, y compris ceux qui ont poussé à la mondialisation, à la délocalisation de nos entreprises, et pas seulement dans des secteurs stratégiques, comme vous l'avez dit, Elisabeth, Alstom, Péchinet, vous vous souvenez de Péchinet?
C'était
une marque emblématique. Cette marque
Péchinet,
a été rachetée par
Eugène
le Canadien Alcan.
Exactement,
elle a totalement disparu. Et là, on s'aperçoit avec cette crise sanitaire qu'on n'a pas été capable de fournir des masques parce qu'on avait fermé le textile en France. On n'a pas été capable de produire des vaccins parce qu'on avait délocalisé notre production. Eh ben, le maire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attendez, si un jour on avait un problème d'approvisionnement alimentaire, est-ce que la France qui serait pas... Mais oui, mais c'est une question, Elisabeth.
Parce que les circuits sont devenus mondiaux. Alors j'interviens parce que pour avoir travaillé au ministère de l'Agriculture, j'abonde complètement dans le sens et de notre ami Éric Revel et de Bruno Le Maire. C'est-à-dire que on est très préoccupé. On est très préoccupé par la pandémie. Non, mais c'est vrai. On est préoccupé par la pandémie, mais il y a un problème. 2040, toutes les projections et notamment de la FAO disent 2040, 9 milliards de personnes à nourrir, contre 7 aujourd'hui. Et problème également, bien sûr, sur les denrées alimentaires. Il y a 30% de la production aujourd'hui à la surface de la planète. Non, mais c'est passionnant parce que ce sujet-là, tout le monde s'en fout. Et je trouve ça super. Bravo pour votre édito, Eric, ce matin. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu stratégique? Et Bruno Le Maire a raison. La grande distribution, toute la production et la transformation de l'agroalimentaire dépend de la grande distribution et dépend de ce canal-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un tel procès aux grands distributeurs sur leur capacité finalement à tirer les prix vers le bas, faire du chantage avec les négociations commerciales tous les mois. Donc il a raison, Bruno Le Maire, c'est un bien et ça va le devenir d'autant plus que les projections sur la production alimentaire, sur la déperdition alimentaire et sur l'augmentation de la population ne sont pas bonnes. On n'en parle pas, tout le monde s'en fout, mais dans 20 ans, c'est demain en fait. Hein. 2040, c'est dans pas longtemps. Et le maire a absolument raison de dire attention, halte-feu sur ça.
Éric, même si
Carrefour.
Éric Revel.
Aller à Chouïa plus loin, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, tous les ans, il y a des milliers d'hectares de terres arables qui disparaissent de la circulation. Or, c'est sur ces terres-là, et les Chinois le savent bien, qui achètent en Afrique. Des terres pour y cultiver des produits justement alimentaires, la raréfaction des terres cultivables pour produire, ça devient un sujet parce que précisément, il y a une population qui s'accroît dans le monde et il y a une superficie cultivable qui décroît.
C'est à cause du réchauffement ou à cause de l'urbanisation?
Les deux et le manque de moyens aussi, parce que dans toutes les études qu'on a faites, moi j'ai beaucoup bossé sur ces sujets, toutes les études qui sont faites montrent aussi qu'il y a une grande déperdition, notamment en Afrique, parce qu'il n'y a pas la capacité de récolter, mais en réalité de transporter, de conserver et de transformer, c'est là que ça manque le chaînon.
Mais ça dit, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, on va terminer quand même, parce que c'est vrai que là, ça reste aussi après un sujet ô combien important sur un plan économique. Cela dit, Eric, on ne s'est jamais opposé à ce que Carrefour aille aussi s'implanter à l'étranger, il ne faut pas oublier ça.
À Pékin, et donc, par exemple, il est magnifique, le Carrefour
partout,
de Pékin.
Alors, je me souviens de l'ouverture, parce que je faisais partie du...
Non mais c'est là, ça aussi la mondialisation.
L'ouverture de Carrefour au Japon, et ça s'est terminé en fiasco, vous savez pourquoi? Parce que les grands caddies de Carrefour au Japon ne correspondaient pas du tout à la petite superficie du japonais moyen et au petit frigidaire dans la petite superficie du japonais moyen. Ce qui veut dire qu'on avait on avait un concept qu'on avait exporté de la France vers le Japon, mais qui ne correspondait pas
au mètre carré immobilier dont disposait les Japon. Et au fait, je ne rigole pas, qu'ils avaient un petit frigidaire et qu'un gros caddie, ça servait à rien.
Bien sûr, bien
sûr. Donc, il y a eu un développement de Carrefour à l'étranger, vous avez raison, Patrick. Mmh,
oui.
Mais parfois, ça a été extrêmement complexe et ça s'est terminé en chaussettes ou en sockets pour les PDG bon. Précédents qui ont précédé Alexandre Bompard à la tête de Carrefour.
En conclusion, Carrefour, donc, c'est vrai qu'il n'allait pas très bien financièrement il y a quelques années, qui a été remis un petit peu sur les rails. Et là, le maire donc, veut s'y opposer. Il y a un décret possible, ce que nous disait Olivier Dussopt ce matin. Donc, on verra effectivement la suite. Mais c'est un dossier quand même stratégique assez...
C'est la loi PAC.
Absolument. Mmh. Assez important. Merci pour ce petit déjeuner de l'actualité. On pas parlé, vous voyez, Covid non. en tant que tel, alors qu'il y a
mieux.
Beaucoup de...
Non, mais... C'est sûr que j'en étais très content d'entendre ça.
Dans un instant, oui, et en même temps, pourtant, il y a des questions quand même assez fondamentales et assez importantes. On en parlera justement après 9h, Cécile, parce qu'il y a des hôpitaux qui sont victimes de cyberattaques, notamment en cette période. C'est quand même assez incroyable. On en parlera avec un spécialiste et puis on parlera santé d'une façon générale aussi à 9h15.
Avec le professeur David Kayat arrêté, et de vous priver, c'est une bonne solution et une bonne préconisation. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, merci d'être avec nous. Et comment lutter contre la cyberattaque qui se multiplie contre les hôpitaux? Et on en parle ce matin avec Stéphane Duguin, qui est président de l'Institut CyberPeace, spécialisé de la lutte contre la cybercriminalité. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour à vous. Avant d'avoir un médecin avec le professeur Kayat dans un instant, on va voir comment entretenir sa santé. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions au 0826 300 300. Ce qui est assez incroyable, on en parle de des cyberattaques et de cette cybercriminalité qui va jusqu'à s'attaquer donc aux hôpitaux. Quel est l'intérêt, Stéphane Duguin?
Merci de nous inviter. Oui. Déjà, l'intérêt, c'est une opportunité. Toutes les crises, absolument toutes les crises, qu'elles étaient sanitaires ou autres, depuis la crise Ebola jusqu'à Charlie Hebdo, en passant par le Bataclan, ont été utilisées par les criminels, les cybercriminels, en vecteur d'attaque. Le problème aujourd'hui avec la chaîne de la santé, la chaîne du soin, la chaîne d'approvisionnement de la santé jusqu'à l'hôpital, c'est qu'elle est non seulement la victime d'attaques de groupes criminels, mais également la victime d'attaques d'acteurs étatiques. Donc c'est la somme de tous les pires.
C'est-à-dire d'acteurs étatiques, là vous pensez à quel
état? C'est-à-dire de groupes qui sont proches d'État. On a vu des attaques qui étaient proches de groupes en lien avec la Chine, en lien avec la Russie. Vous avez d'autres responsabilités de l'État, vous pouvez voir ça dans l'autre sens. L'État a une obligation de protection de l'hôpital. C'est-à-dire que lorsque des groupes criminels sont identifiés comme étant auteurs de faits, il est important de pouvoir mettre en place les armes de la justice ou de pouvoir procéder aux extraditions ou d'échanger l'information pour les enquêtes. Donc l'hôpital, en bout de chaîne, et les gens, vous et moi, qui sommes en besoin de santé aujourd'hui, se retrouvent victimes de cette équation un peu problématique. D'un côté, l'hôpital a peu de ressources, peu de moyens pour se défendre, parce que trop occupé aujourd'hui, évidemment, à la santé. D'un autre côté, son infrastructure technologique est extrêmement complexe. Il fait face à des gens qui sont soit organisés d'un point de vue criminel parce que c'est une motivation lucrative, c'est pour faire de l'argent. Je bloque un hôpital, je demande de l'argent, l'hôpital n'a pas le temps de se débloquer, donc paye. Ou alors je vais jusqu'à la méthodologie abjecte de voler les données des patients. Et si l'hôpital ne paye pas, je menace patient par patient afin de récupérer de l'argent. Sinon, vos données de patients se retrouvent sur Internet. Et de l'autre côté, il y a des groupes qui sont proches de l'État ou qui travaillent pour les États qui, eux, coordonnent des campagnes de désinformation contre l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, ou facilitent les activités de groupes criminels. Oui, donc c'est une équation assez complexe.
Bah oui, c'est arrivé l'autre jour. Enfin, ça arrive souvent dans beaucoup d'hôpitaux. Mmh. L'hôpital de Narbonne, par exemple, en a été victime. Ils vont jusqu'à payer des rançons. Mmh. Alors les centres hospitaliers, ils sont coincés à ce point-là ou pas?
Il faut comprendre que ça s'inscrit dans une difficulté plus profonde. Vous êtes en charge d'un hôpital, vous devez faire en sorte que votre service tourne. Vous êtes en pleine crise de la Covid-19. Il faut savoir que moins de 1%, en gros 1 à 2% du budget hospitalier est alloué à la cybersécurité. Lorsque l'attaque arrive et que les patients arrivent, le choix est complexe. Si vous n'êtes pas organisé en amont, il est très difficile même d'avoir le choix. C'est assez étrange, vous voyez qu'au pic du premier confinement, il y avait une attaque par jour que l'on pouvait documenter dans le monde sur le secteur hospitalier. Imaginez si des groupes armés, chaque jour, à ce moment-là, entraient dans les hôpitaux, cassaient les ordinateurs contre de l'argent, je pense que la communauté internationale réagirait un tout petit peu différemment.
Ouais. Mais si on va plus loin, parce que bon, ça c'est arrivé dans certaines villes aux États-Unis, la ville de Baltimore a été cyberattaquée et stoppée pendant des jours et des jours, est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle forme de terrorisme ?
Ce n'est pas le terrorisme est vraiment lié à la motivation idéologique ou à la volonté de déstabiliser un État. On se retrouve vraiment avec deux grands modes opératoires. Vous avez un mode opératoire criminel qui est je cherche de l'argent et je prends toutes les méthodes possibles et imaginables avec d'une innovation criminelle sans limite. Vous aviez la simple extorsion, j'attaque un hôpital, vous payez, si vous ne payez pas, vous ne récupérez pas votre système. C'est passé par la double extorsion, si vous ne payez pas, je fuis de vos systèmes sur Internet. Et maintenant, on en a la triple extorsion où si vous ne payez pas, je vais aller voir les patients. Directement, et je vais leur demander de l'argent. Le deuxième mode opératoire, c'est le cyberespionnage. Le fait que des centres de vaccins, des laboratoires de recherche soient la cible de cyberespionnage, donc en fait une cible d'attaque qui amoindrise la sécurité de leur système, a un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement.
Ça veut dire qu'on pourrait à un moment donné bloquer toute la chaîne médicale, c'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui fait que, enfin tout le modèle soignant en fait.
En fait, il faut bien comprendre, et c'est peut-être la difficulté de la réponse contre la menace cyber sur l'hôpital depuis des années, c'est qu'au bout du bout, celui et celle qui est impacté, c'est vous et moi. C'est attaquer un hôpital, c'est attaquer la vie humaine. Il y a des études assez récentes qui démontrent que lorsqu'un hôpital a été attaqué, si vous voulez vous faire soigner dans ce même hôpital des mois ou des années après, et si vous êtes en situation d'urgence, vous avez plus de chances de ne pas être soigné correctement. Parce que l'hôpital a dû mettre en place des procédures qui parfois ralentissent la prise en charge, où les gens sont partis, où il y a des problématiques financières suite peut-être à des procès. Et du coup, la qualité du soin descend.
Oui. Et Stéphane Duguin, comment fait-on pour vraiment répliquer ? Est-ce qu'on est armé parce que ça vient de ces criminels qui parfois s'appuient sur des États, mais parfois ce sont des organisations, entre guillemets, mafieuses, qui vont s'attaquer à des hôpitaux, mais d'autres organisations, à des villes, à des entreprises. Est-ce que l'État a un système en place pour pouvoir répliquer ou est-ce qu'on doit s'appuyer uniquement sur des entreprises privées pour répliquer également ?
Alors, c'est un domaine où c'est un peu comme pour combattre la Covid-19, c'est un peu tous responsables. C'est-à-dire que nous, déjà, en tant qu'utilisateurs de l'Internet, si nous mettons en place des gestes barrières numériques, on peut ne pas se retrouver dans la chaîne de quelqu'un qui va vous faire suivre l'email rigolo ou l'image rigolote, qui en fait est pleine de virus et qui va se retrouver à attaquer le réseau. Donc, c'est le premier niveau de responsabilité. Ouais. Au-delà de cela, il y a une responsabilité de l'industrie. L'industrie met en place des solutions techniques pour le secteur hospitalier. Dans cet exemple, ces solutions doivent être sécurisées ou aisées à sécuriser. Donc, il y a une responsabilité à ce niveau. Pourquoi l'État a une responsabilité supplémentaire ? Parce que c'est le seul acteur qui peut agir au niveau réglementaire, au niveau judiciaire, au niveau éthique et au niveau normatif, au niveau international. Donc, c'est pour ça que l'État a plus de responsabilités. Il n'y a pas tant d'asymétrie que ça. Les groupes criminels sont organisés dans le sens qu'ils échangent des informations très vite, qu'ils partagent leurs compétences. Vous avez une véritable communauté criminelle qui s'entraide pour pouvoir attaquer et faire le meilleur des attaques. En face, le souci, c'est que vous avez beaucoup de silos, beaucoup de secteurs, et au final, très peu de coordination et de coopération.
Oui, c'est vrai. Dernière question, peut-être, Elisabeth Lévy, qui vous écoute également. Elisabeth, est-ce que vous avez une question ?
C'est un peu effrayant. Parce
c'est pas une série, Elisabeth. Ça existe vraiment. C'est pas une série Netflix ou autre canal.
Je connais une rédaction qui a été hackée, et en fait, les gens préfèrent souvent payer tout de suite, parce qu'ils vont perdre beaucoup plus d'argent s'ils doivent attendre que l'on mette en place les trucs, que je ne sais même pas s'il y a un service spécialisé dans ce genre de choses dans la police. Ouais. Mais ce que je vois, c'est que beaucoup de boîtes préfèrent payer. Je ne sais même pas si elles portent plainte.
Ouais. Non, c'est très vrai. Et, au Cyber Peace Institute, nous avons mis en place une plateforme Cyber for Healthcare qui donne un soin, une aide gratuite. à tous les acteurs qui sont en besoin ou de se sécuriser, de comprendre comment ça fonctionne ou qui, s'ils sont attaqués. Il vous parlait tout à l'heure de qui est organisé en face. Ce genre de plateforme aide aussi les acteurs industriels, dans ce cas précis, à aider gratuitement, rapidement, ceux qui en ont besoin.
Oui. Merci en tout cas Stéphane Duguin, président de l'Institut Cyber Peace, spécialiste de la lutte contre la cybercriminalité. C'est comme pour le Covid, vous l'avez dit, les gestes barrières, c'est ce qu'il faut faire. Faites-le avec vos ordinateurs, avec vos téléphones, etc. C'est particulièrement important pour éviter, évidemment, du piratage et des dérapages. C'est un peu la même chose, quoi, évidemment, que le Covid-19, où il faut ces gestes barrières plutôt que des mesures peut-être drastiques. C'est ce que vous avez beaucoup dit ce matin sur les réseaux sociaux quand on vous a posé notre question du jour. Est-ce qu'il faudrait faire comme l'Allemagne ? Parce que l'Allemagne, c'est radical, reconfinement pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de janvier et peut-être bien au-delà. On posera d'ailleurs aussi la question au professeur Kayat.
Hein. Bah justement, vous parliez de dérapage. On s'interdit certains des dérapages alimentaires et dans notre vie, le professeur David Kayat nous dit arrêtez de vous priver. Et il nous explique pourquoi et nous donne des très bons conseils.
Ça, c'est un bon titre, oui, mais parce que arrêtez de vous priver, mais on voit quand même que dessous, il y a un tas de choses qu'il faut faire.
Il explique qu'il faut savoir se faire plaisir avant. Ouais. Voilà. Et on en parlera avec lui dans quelques instants. Bougez pas.